Voilà, amis auditeurs, toujours le plaisir de vous accompagner à travers votre émission Sawa Ensemble, et ce pour une heure et demie autour du Téléthon. D'ailleurs, on a commencé juste avant avec quelques témoignages des malades. On va continuer avec ces témoignages tout au long de cette émission. Bien sûr, le vendredi, à partir de demain, le vendredi 6 décembre et le 7 décembre, à partir de cette date, le compteur du Téléthon, comme on l'a annoncé, sera remis à zéro pour la 33e fois. Les organisateurs de cet événement solidaire auront 30 heures de direct télévisuel sur France Télévisions pour amasser un maximum d'argent afin de financer la recherche et la lutte contre les maladies génétiques rares qui concernent plus de 300 millions de personnes dans le monde. Alors, pour en parler aujourd'hui avec nous, ici présent, le directeur général de l'AFM Téléthon, monsieur Christian Côté. Bonjour monsieur Côté.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler justement de ce Téléthon qui a quand même eu un chemin, un sacré chemin.
Plus de 33 ans.
Et 33 éditions.
Absolument.
Chaque année, le vendredi et le samedi de chaque année,
début décembre,
l'aventure redémarre avec les Français. C'est une histoire de fidélité, hein, et puis j'ai comme l'impression que les Français, ça y est, ils ont adopté le Téléthon, et c'est devenu presque une affaire de famille.
Alors c'est d'abord et avant tout une histoire de famille, parce qu'en effet le Téléthon a 33 ans, mais l'association qui organise cet événement, elle a un peu plus de 60 ans, puisque elle a été créée en 1958, par un petit groupe de familles dont les enfants étaient affectés par des maladies inconnues à l'époque, des maladies rares, des maladies graves, essentiellement des myopathies. 9 familles qui se sont rassemblées pour créer une association, pour se mobiliser ensemble, solidairement, à travers cette association qui est aujourd'hui l'AFM Téléthon.
Pourquoi AFM Téléthon ?
Alors, AFM parce que, historiquement, notre association s'est constituée autour d'un groupe particulier de maladies qu'on appelle les myopathies. Mm-hmm. Et AFM, ça veut dire Association Française contre les myopathies. Donc les myopathies, ce sont des maladies, on parle aussi de maladies neuromusculaires.
Absolument.
Ce sont des maladies qui affectent le muscle, la cellule musculaire elle-même, ou bien la commande du muscle, c'est-à-dire le motoneurone. Donc maladies neuromusculaires, et qui se traduisent toutes par un affaiblissement général de la force musculaire, et avec parfois des issues gravissimes.
Et actuellement, quelles sont les maladies concernées par ce Téléthon ?
Alors progressivement, nous avons élargi notre champ d'action à ce qu'on appelle les maladies rares. Les myopathies que je viens d'évoquer, c'est environ 300 maladies différentes, mais qui font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, qui sont les maladies rares. 7000 maladies qui ont toutes pour, je dirais, particularité commune d'affecter un petit nombre de personnes, moins de une personne sur 2000 dans une population générale. Mmh. Mais comme elles sont très nombreuses, ces maladies mises toutes ensemble, c'est 3 millions de Français qui sont concernés. Alors c'est un ensemble extrêmement complexe. La plupart d'entre elles, 80%, sont d'origine génétique. C'est pour ça que l'on parle beaucoup de génétique dans le Téléthon. Mmh. Elles peuvent affecter toutes les fonctions biologiques, tous les organes. Donc les maladies des muscles, on en a parlé, mais aussi des maladies du sang, des maladies de la vue, des maladies du système nerveux central. Il n'y a pas une seule fonction biologique, il n'y a pas un seul organe qui échappe à l'une ou l'autre de ces maladies rares.
Alors, vous avez un partenaire de taille depuis le début de cette aventure, depuis 33 ans, France Télévisions. C'était à l'initiative de qui ? Comment vous vous êtes dit un jour, voilà, on va vraiment se lancer dans cette aventure avec France Télévisions ? C'était à l'initiative de qui ?
Alors, ça a été un long parcours. C'était à l'initiative du président de l'AFM Téléthon de cette époque-là, qui s'appelle Bernard Barateau, ainsi que des personnes rassemblées autour de lui dans la gouvernance de l'AFM à cette époque-là. Je peux citer également Pierre Birambeau, par exemple. Ils se sont basés sur ce qui existait aux États-Unis. Il existait déjà un Téléthon aux États-Unis depuis bien longtemps, depuis 1966, qui lui était entièrement consacré homéopathie.
Et à l'époque, c'était médiatisé.
Et à l'époque, c'était déjà médiatisé à travers un très grand nombre de chaînes de télévision. Et donc, c'est en nous inspirant de cet exemple qui était conduit par l'Association des malades neuromusculaires américains, la MDA, la Muscular Dystrophy Association. C'est en nous inspirant de cet exemple qu'on a construit en France avec, alors, c'était pas France Télévisions, c'était Antenne 2. À l'époque,
oui, c'est vrai.
Donc avec Antenne 2, on a construit ce Téléthon qui, au départ, était consacré aux maladies neuromusculaires, puis progressivement, pour plein de raisons dans lesquelles on pourra revenir dans notre discussion, a été élargi à l'ensemble de la recherche et aux recherches de thérapeutiques pour l'ensemble des maladies rares, donc les 7000 maladies qu'on évoquait tout à l'heure.
Et donc l'aventure avec France Télévisions est restée, qui a duré d'ailleurs.
C'est une belle aventure, c'est un long chemin, c'est un partenariat avec beaucoup d'acteurs. Donc bien sûr, il faut citer France Télévisions, il faut citer le Lions Club qui nous accompagne et qui nous depuis le tout début, et puis plein de partenaires. Alors j'hésite de les citer parce que je vais certainement en oublier, mais par exemple La Poste, le France Télécom, enfin le Orange aujourd'hui, mais au départ les téléphones.
Ils ont aussi le mérite.
Au départ, tout était axé sur le téléphone, les promesses de dons par le 36-37 qui continue aujourd'hui, et puis plein d'autres, bien sûr.
Et justement, chaque année, lors du premier week-end de décembre, comme vous l'avez si bien dit, cette mobilisation exceptionnelle rassemble à peu près 5 millions de Français, 250 000 bénévoles et 70 partenaires nationaux, y compris en Outre-mer. C'est un grand élan.
C'est devenu d'abord un vrai mouvement. Un mouvement de solidarité qui se renouvelle en effet chaque année avec une grande fidélité, qui fédère de très nombreuses organisations. Vous avez cité un très grand nombre d'associations. Il y a plus de 50 000 partenaires locaux, plus ou moins locaux, départementaux, régionaux, nationaux du Téléthon, qui chaque année s'impliquent dans l'organisation d'une animation sur le terrain, de façon à renforcer cette dynamique solidaire au profit de la lutte contre les maladies rares. Il y a en France plus de 22 000 points d'animation locale. Il se passe un événement Téléthon dans environ une commune sur trois. Donc partout en France, le Téléthon est fédérateur. C'est un mouvement de grande générosité,
absolument,
de solidarité, avec des valeurs fortes d'engagement pour ces millions de Français qui ont adopté totalement, avec une très grande fidélité, puisque en effet depuis 33 ans la fidélité des donateurs, des Français, n'a jamais manqué à ce rendez-vous de début décembre.
Alors ça a manqué quand même en 2015-2016, la récolte était plus intéressante qu'en 2017 et 2018. C'était dû à quoi? Je sais que il y a eu des événements qui ont intervenu.
Ça s'inscrit dans une actualité.
Absolument.
En 2017, le Téléthon, du point de vue médiatique, a été impacté par la cérémonie des obsèques de Johnny Hallyday.
Absolument.
Sur les Champs-Élysées. Et pendant l'essentiel du samedi, le Téléthon a quasiment disparu des antennes. Et puis 2018, c'était une activité sociale un peu chahutée. C'était les gilets jaunes qui nous ont amenés. Nous avions eu la bonne idée cette année-là d'installer le plateau central du Téléthon sur la place de la Concorde, c'est-à-dire juste au pied des Champs-Élysées, au lieu des manifestations très impactante de la part des gilets jaunes, et on a été amené à déménager, à délocaliser le plateau pour aller dans un studio, et tout ça dans les 48 heures qui ont précédé le Téléthon, et puis surtout avec le fait que cette actualité-là a fait que les Français avaient d'autres préoccupations, d'autres sujets d'intérêt que le Téléthon. Donc voilà, 2 années pendant lesquelles le Téléthon a ainsi été impacté.
Et justement, décidément, il n'y a pas de chance parce que cette année, il y a le mouvement social avec les grèves.
Alors cette année, on a eu la bonne idée de retenir les 6 et 7 décembre pour le Téléthon. Le 5... Aujourd'hui, donc, c'est la grande journée d'action. En effet,
qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui veulent se déplacer justement pour
c'est que si les gens ont des difficultés pour se déplacer, eh bien, qu'ils regardent le Téléthon. S'ils sont pas plutôt que de perdre du temps dans les transports, qu'ils regardent le Téléthon puisque
il est diffusé en direct,
vous le savez en direct. Mm-hmm. Et puis on va pas baisser les bras. C'est pas parce que il y a une actualité qui vient nous impacter. Les familles du Téléthon se battent contre la maladie depuis plusieurs décennies, depuis 60 ans maintenant. Donc en effet, le combat contre la maladie doit dépasser largement cette actualité.
Absolument.
Qui est un petit peu impactante par rapport à l'organisation d'un grand événement comme le Téléthon.
Je pense que les Français, ils sont assez généreux et assez compréhensifs et surtout ils ont la conscience complète concernant l'enjeu de ce Téléthon qui revient aux malades par la suite et puis la recherche. Donc je pense qu'ils vont être présents quoi qu'il arrive. En tout cas, ils ont la possibilité d'appeler la plateforme 36-37 pour faire des dons ou éventuellement aller sur votre site.
Comme d'habitude, donc le 36-37, c'est le téléphone de la générosité, ou téléthon.fr pour ceux qui préfèrent Internet. D'autant plus que cette année, nous avons des choses extraordinaires à présenter au Téléthon, parce que 33 années de Téléthon avec des résultats, et des résultats qui sont magnifiques, et je pense qu'on pourra en parler dans quelques minutes.
Avec joie. En tout cas, juste le moment d'une petite pause de publicité, on se retrouve juste après.
Bonjour, c'est Sophie Davant. Les 6 et 7 décembre, c'est le grand week-end du Téléthon. Vous allez découvrir de nouvelles victoires. Les chercheurs vous parleront d'une véritable révolution médicale qui change la vie des malades. C'est à vous que nous devons ces victoires. Ensemble, multiplions-les. Merci pour votre soutien au 36-37 ou sur téléthon.fr.
C'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps avec mon mari. Et j'en parlais beaucoup aux copains de Neuilly-Pompierre. Et ils m'ont dit, rentre au comité des fêtes et organise toi-même le Téléthon. On te suit. C'est ce que j'ai fait, tout simplement. Je m'appelle Julie, j'habite à Neuilly-Pompierre, dans l'Indre-et-Loire, au nord du département. Et j'organise le Téléthon depuis 2015. Je me mobilise pour le Téléthon pour des causes personnelles, parce que je connais des gens qui sont atteints de myopathie, que ça me touche beaucoup. Et ça a toujours été un projet qu'on avait envie de lancer. Donc avec mon mari, on s'est lancé. Et petit à petit, on a embarqué avec nous les enfants, nos filles, et en même temps, papy et mamie, ma sœur, mon beau-frère. Tout le monde met la main à la pâte.
Je participe au Téléthon depuis que je suis toute petite. On prépare tout, puis après, les gens viennent. Il y en a qui courent, il y en a qui font des jeux, il y en a qui mangent.
On est sur un village d'un peu plus de 2000 habitants. Beaucoup d'associations, donc déjà un tissu associatif assez important. Donc les gens aiment bien aider. Ce qui fait qu'on se retrouve, comme par exemple l'année dernière, à être plus de 150 à organiser. On a des gens qui nous aident financièrement, comme les artisans, les commerçants. Mais aussi sur le bénévolat, pour donner un coup de main, pour préparer avant. Par exemple, préparer la tartiflette qui représente quand même beaucoup de repas. La soirée tartiflette, on était 370. La journée, le samedi, ça commence en général vers 10h30. Et après, ça bouge toute la journée. L'organisation du Téléthon, c'est très facile. C'est beaucoup de bonne ambiance. On s'amuse beaucoup, on prend du plaisir à ce qu'on fait et d'être ensemble. Le mot d'ordre, c'est s'amuser. On n'est pas là pour se prendre la tête. Je rencontre des gens formidables, d'année en année, des connaissances et des gens qui m'apportent beaucoup. Et puis j'aime bien les défis. Le but d'année en année, c'est d'avoir de plus en plus de promesses de dons. Ça c'est évident. Et ça augmente d'année en année. Pourquoi ? Parce qu'il faut continuer à faire avancer la recherche, parce que les retombées d'il y a 20 ans, quand le Téléthon a été créé, elles arrivent là, et qu'on voit qu'il y a des belles évolutions. Donc ça, c'est aussi très important. C'est vrai que d'organiser le Téléthon, c'est du bonheur. C'est beaucoup, beaucoup de stress, c'est très fatigant, mais néanmoins, je ne me verrais pas sans le Téléthon. On passe tellement de bons moments qu'en échange, il faut le continuer.
Auditeurs, toujours le plaisir de vous accompagner en cette émission spéciale sur le Téléthon 2019 qui se déroule à partir ou qui se déroulera à partir de demain, le vendredi. Donc avec nous le plaisir d'accompagner Monsieur Christian Côté qui nous accompagne aujourd'hui, le directeur général de l'AFM Téléthon. On a parlé de l'historique de cette aventure qui est le Téléthon. Donc on en est au 33e édition. Bien sûr, ça a commencé dans les années 60, cette aventure, mais effectivement au niveau France Télévisions, ça a commencé à partir enfin il y a 33 ans.
En 1985,
tout à fait. Et là cette année, il y a vous avez un parrain, un nouveau parrain. L'année dernière, c'était Pascal Obispo, l'année d'avant, c'était Zazie, qui sont très très impliqués dans le Téléthon. Cette année, c'est Jean autour de Jean-Paul Rouve pour devenir le parrain de cette édition. Comment vous est venue l'idée de faire appel à lui, ou c'est lui qui est venu vers vous?
Alors, le choix du parrain, c'est toujours une affaire compliquée, parce que il faut d'abord que tout le monde soit d'accord et en phase, que ce soit dans l'interaction qui existe entre notre organisation et France Télévisions. Alors, Jean-Paul Rouve s'est imposé assez naturellement, parce que c'est pas la première fois qu'il est présent dans le Téléthon. Il a déjà participé, non pas en tant que parrain, mais aux éditions précédentes. Et puis surtout, Jean-Paul a noué des relations avec certaines familles, et en particulier un jeune garçon qui est atteint par une maladie qui assez lourde, assez sévère, qui s'intéresse beaucoup au cinéma et qu'il a recruté comme assistant réalisateur sur certains de ses tournages.
Je rappelle que Jean-Paul Rouve, il est très, très connu, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand artiste français et réalisateur, hein. Donc sa présence, elle porte aussi, comme la présence de Zazie, Pascal Obispo, Garou aussi, qui a été très impliqué. Les célébrités aident.
Ça nous aide beaucoup, et je peux dire que les noms que vous avez cités, et a priori Jean-Paul Rouve, c'est aussi le cas, sont des personnes qui sont devenues des amis de l'association, qui sont rentrées dans la compréhension fine de ce que nous faisions, et surtout qui ont su établir un relationnel de grande qualité avec les familles qu'ils ont pu rencontrer au détour de l'émission.
En tout cas, on va parler de plein de choses. Je rappelle juste qu'on aura une petite pause avec les infos autour de 15h30 avec le flash en langue arabe, et on aura le plaisir d'échanger avec le docteur Urtiz Beria Andoni, clinicien expert des maladies neuromusculaires, qui va nous faire le point autour des maladies du muscle très répandues dans le bassin méditerranéen. En tout cas, on va échanger avec lui autour de cette thématique, mais aussi on va parler avec vous, Monsieur Côté, autour de l'argent destiné du Téléthon, où elle va, pour avoir ou donner une idée à nos auditeurs autour de cette orientation de l'argent ou les dons pour aider la recherche, justement, afin de sauver des vies, n'est-ce pas?
Tout à fait. L'argent qui est collecté à travers le Téléthon sert à financer nos actions, qui sont d'ailleurs inscrites dans nos statuts. Il y a deux grands axes, il y a deux grands axes d'action. Il y a d'une part la recherche et le développement des thérapeutiques, la recherche de nouveaux médicaments. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la mission guérir. Mmh. Et c'était, je dirais, l'espoir des premières familles fondatrices de notre association d'aller dans
Sophie
cette direction. Et puis le deuxième grand axe, c'est l'aide et le soutien aux malades et aux familles dans leur vie quotidienne. Et on pourra détailler ces éléments un petit peu plus tard.
Avec joie, juste après la pause, n'est-ce pas Raymond? On continue avec vous, amis auditeurs, juste après le flash de 15h30 avec notre ami Mazen Hamoud. Restez avec nous. Non, aujourd'hui c'est Roger Khoury. Je les ai vus passer dans les coulisses, les deux. Donc voilà, j'ai dû faire... Ça c'est tout moi. Donc, donc à tout à l'heure, juste après le flash de notre ami Roger Khoury, ici présent. بشر في الأساس toujours le plaisir de vous avoir en notre compagnie, amis auditeurs. On continue avec le Téléthon 2019 avec nous justement le représentant de l'association AFM Téléthon 2019 ici présent, monsieur Christian Côté, directeur général de l'AFM Téléthon, donc qui nous a parlé depuis le début de l'historique de là où a démarré cette grande aventure depuis les années 60 et avec France Télévisions depuis les années 80, 85 exactement.
87.
Je dis n'importe quoi.
Premier Téléthon 1987.
Donc 87, je rectifie. Et puis, bien sûr, avec nous en direct, le docteur Andoni Urtiz-Beria, clinicien expert des maladies neuromusculaires, qui va nous éclairer autour de la recherche. Docteur, bonjour. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Merci.
Vous m'entendez ?
Oui, bonjour. Très bien. Bonjour. Alors, docteur Urtiz-Beria, vous êtes clinicien expert des maladies neuromusculaires, engagé avec le Téléthon. Parlez-nous un petit peu de ce que la recherche, les victoires de la recherche, où on est avec la recherche justement dans ce stade après 33 ans d'aventure.
Alors, juste pour rappeler qu'effectivement, c'est un engagement personnel que je partage avec Christian Côté et beaucoup d'autres depuis 30 ans pour ces maladies rares et particulièrement les maladies neuromusculaires dont j'ai à m'occuper. Et j'ai pu, au travers aussi d'un parcours personnel dans le monde arabo-musulman, puisque je suis consultant dans plusieurs pays, j'ai pu voir effectivement les progrès accomplis à la fois pour la découverte des gènes, ça c'était la première étape dans les années 80-90. Et puis ensuite le diagnostic, la mise en place d'un diagnostic précis pour la plupart des malades. Et puis ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire l'arrivée des thérapeutiques innovantes qui sont véritablement efficaces et qui permettent dans certains cas de guérir de façon définitive des maladies génétiques. Donc pour moi c'est vraiment une évolution formidable qui s'est faite au prix d'effectivement beaucoup d'efforts, hein, parce que rien n'est simple dans ce domaine, surtout dans le domaine scientifique. Mais voilà, on y est. Et pour parler du bassin méditerranéen en particulier, c'est vrai que les choses ont évolué. Je me rappelle très bien, dans les années 80, on était à la recherche de gènes de maladies rares, qui n'étaient pas si rares que ça de l'autre côté de la Méditerranée. Donc on avait établi des collaborations scientifiques très fructueuses.
Où exactement, docteur, du côté
en Tunisie, Algérie,
dans le Maghreb?
Oui, au Maghreb de façon générale. Et puis par la suite, on a continué avec le Liban. Et puis encore plus récemment avec les pays du Golfe, mais dans un autre contexte, hein, un contexte culturel différent et un contexte économique bien sûr différent. Donc j'ai pu voir effectivement une époque où toutes ces maladies génétiques étaient taboues, hein, elles le sont encore en partie dans certains milieux. Mais voilà, maintenant les choses s'expriment mieux, d'abord parce que les médias ont fait que on en parle plus souvent, plus librement, et puis surtout parce que effectivement il y a des perspectives thérapeutiques dont les gens commencent à être au courant et que ils sortent du bois, ils sortent de chez eux, et on les voit revenir en consultation.
Une prise de conscience, prise de conscience.
C'est clair. Donc voilà, alors bien sûr il se pose le problème de l'accès au traitement, et ça c'est une question d'actualité, puisque on l'a pas dit encore, mais ce sont des thérapeutiques par définition onéreuses, puisqu'elles sont toutes nouvelles et qu'elles s'adressent à un nombre limité de personnes.
Il y a un engagement, docteur, de la part de ces pays-là avec le Téléthon ici.
Il y a toujours eu des collaborations, au niveau scientifique d'une part, c'est-à-dire avec nos collègues de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple, nous en avons formé plusieurs dizaines. Alors, en France, à l'occasion d'écoles d'été ou d'événements éducationnels de ce type, mais également au niveau associatif, hein, puisqu'il y a quand même des associations de l'autre côté qui font ce qu'elles peuvent dans le contexte que l'on connaît, avec des difficultés particulières pour certains pays, en sachant que par exemple, certaines sont très émiettées, très, très disséminées. Je pense par exemple à l'Algérie où il y a pratiquement une association de malades neuromusculaires dans chaque wilaya, ce qui est un peu assez peu productif, mais voilà, alors qu'ailleurs c'est beaucoup plus homogène comme en Tunisie, etc.
En tout cas, juste pour que ça soit plus interactif, monsieur Côté, derrière les portes du siège de l'AFM Téléthon à Évry, en banlieue parisienne, se trouve le laboratoire Généthon, créé en 1990. Parlez-nous un petit peu
ce laboratoire est donc le fruit effectivement du Téléthon, hein. C'est un produit dérivé du Téléthon, clairement, qui, à l'époque, en tout cas au tout début, était surtout destiné à découvrir ces gènes de ces fameuses maladies rares, et chose qui a été faite en grande partie avec la collaboration des pays du Maghreb, et d'autres, bien sûr. Et puis, maintenant, Généthon est impliqué dans une phase, comme je l'ai dit, de recherche de thérapeutiques nouvelles, issues de la connaissance des gènes, que ce soit la thérapie génique, hein, une thérapie qui est très, très en vogue, mais aussi la thérapie cellulaire et d'autres thérapies plus conventionnelles. Donc ce laboratoire, c'était et c'est encore le fer de lance de ce qui anime l'esprit du Téléthon. Ouais. Et donc c'est très utile à la fois pour les populations françaises, mais pour les populations en général du monde entier, hein, concernées par ces maladies.
Quels sont les projets qui sont en cours pour avancer la recherche? Monsieur Côté, vous voulez ajouter quelque chose?
Oh oui, je crois qu'on peut dire que le Généthon, c'est véritablement le laboratoire du Téléthon. En effet, aujourd'hui, il porte des programmes très importants qui sont non plus des programmes de recherche fondamentale, mais des programmes de développement thérapeutique dans le domaine de la thérapie génique, c'est-à-dire la capacité d'aller corriger la mutation génétique qui entraîne l'apparition de la maladie, donc de corriger finalement la cause de la maladie. Et Généthon a une dizaine de projets qui sont aujourd'hui en clinique et qui, nous croisons les doigts, si tout va bien, vont aboutir à la mise à disposition de traitements pour les malades qui en ont besoin. Donc on pourra citer tout à l'heure quelques maladies pour lesquelles c'est quelque chose qui est très proche d'aboutir. Et puis Généthon a aussi participé à des collaborations, à apporter sa pierre à l'édifice pour des thérapeutiques qui sont aujourd'hui déjà mises à disposition des malades.
Est-ce qu'il y a des thérapies, docteur Urtizberia, qui se trouvent, enfin des avancées au niveau des États-Unis, par exemple, les pays anglo-saxons, ou que ce soit chez nos voisins en Europe, que nous en France, on n'a pas, ou on avance par rapport à d'autres pays?
Alors c'est toujours difficile et pas nécessairement utile de faire un classement dans ce domaine, mais bon.
Ce n'est pas tant dans le classement, mais c'est surtout pour avoir
une idée. Je pense qu'il faut quand même dire que les Américains, de façon générale, sont très bons pour mettre en place et valoriser très rapidement, je dis bien très rapidement,
c'est ça.
Les avancées de la recherche. Voilà. Mmh. Ils sont capables de lever du capital et de créer des biotechs qui elles-mêmes vont être absorbées par des grandes pharma et qui vont donner lieu à la commercialisation de médicaments innovants.
Et donc, c'est ce qui explique leur...
C'est ce qui se passe actuellement. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'Europe et la France, en particulier, malgré le Téléthon, puisque le Téléthon, justement, c'était destiné à impulser cette recherche en matière de thérapie innovante, on est un peu
prudent.
Parce que voilà, c'est pas qu'on soit prudent, mais on n'a pas cette culture du risque, ce qui fait que finalement actuellement beaucoup de ces médicaments innovants qui ont été découverts en grande partie par les chercheurs du Généthon, sont valorisés, c'est-à-dire en gros commercialisés par les firmes étrangères, ce qui est un peu dommage.
En fait, je pose la question naïvement parce que on est très souvent taxé de frileux, mais en fait, c'est juste par prudence et puis attendre que ça fasse effet sur les essais, pendant les essais, c'est ça?
Alors, en pratique, la France n'a pas à rougir de ce qui se passe notamment aux États-Unis. La France est très avancée en termes de recherche scientifique et biomédicale. Et en effet, comme l'évoquait Andoni il y a quelques minutes, nous avons une petite difficulté à passer du résultat de la recherche à la mise à disposition du médicament, c'est-à-dire à la dimension développement industriel. Pour plein de raisons liées à l'organisation du système économique qui sont un petit peu différents aux États-Unis et en France. Et donc, cette différence, elle tient essentiellement là. Mais la France, notamment grâce au Téléthon, et ça, je pense qu'il faut le redire, grâce à 33 ans de Téléthon, est en pointe dans le domaine de la recherche sur les maladies rares, sur les maladies génétiques rares en particulier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien mettre à l'actif du Téléthon, qui a permis de construire à la fois une recherche de pointe qui aboutit aujourd'hui à la mise à disposition des premières thérapeutiques pour des maladies lourdement impactantes, mais aussi à une dimension d'organisation du système de santé à travers des plans de santé publique qui permet une bien meilleure qualité de la prise en charge des malades dans leur vie quotidienne. Il faut bien distinguer les deux. Il y a la vie quotidienne, la prise en charge, les soins de tous les jours, et la France est aussi très bien organisée de ce côté-là. La recherche, la France est aussi en pointe, et maintenant il faut que la France fasse des progrès dans sa capacité à transformer les résultats de la recherche vers la mise à disposition à travers l'industrialisation, par exemple, des process de fabrication.
À travers l'industrie justement pharmaceutique qui avec qui vous collaborez, j'imagine. Qu'est-ce qu'a apporté justement le Téléthon en matière de recherche concrètement au niveau des maladies? Est-ce qu'on a moins, combien les malades, le nombre de malades qui ont été traités, est-ce qu'il y en a assez ou pas? Comment ça se déroule, ça se passe?
On peut dire simplement, il y a deux phases à considérer. Il y a ce qu'on appelle les essais cliniques, c'est-à-dire quand on teste des molécules innovantes, etc. Et là, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont concernées en France et qui participent à ces essais. Et puis ensuite, il y a l'aspect accès au traitement une fois que ces molécules ont été validées, c'est-à-dire qu'elles ont fait la preuve de leur efficacité et qu'elles sont ensuite commercialisées. Et là, de ce point de vue-là, alors, il faut le dire et le redire, c'est que la France a cette chance de pouvoir donner accès de façon très égalitaire, c'est-à-dire à tous les patients qui bénéficient de la sécurité sociale, eh bien à ces molécules, quel que soit leur niveau de revenu ou leur position sociale. Et ça, c'est un acquis qui nous différencie de beaucoup de pays, y compris des pays anglo-saxons.
Donc, et ça rassure simplement aussi les malades et leurs familles, d'ailleurs.
C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est à chaque fois une discussion. ce sont des traitements donc qui sont lourds pour certains, qui font l'objet de discussions, non seulement entre professionnels, mais aussi avec les associatifs et avec les patients concernés, avant de se lancer quelquefois dans des aventures un peu lourdes et un peu longues surtout. Donc on a cette chance. Alors, pour être plus prosaïque, il y a effectivement actuellement, notamment pour une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale, qui est fréquente, hein, qui concerne à peu près 1000 à 1500 personnes en France, et vous imaginez, puisque c'est encore plus élevé en termes de fréquence dans les pays du Maghreb, ce que ça peut représenter, eh bien, on a actuellement 200 personnes qui sont traitées avec une molécule donc très innovante, qui a été commercialisée depuis un an, et une deuxième molécule qui concerne pour l'instant simplement 4 petits enfants, petits nourrissons. Voilà, et donc ça, ce sont des
réponses immédiates. Docteur Urtizberia, je demande juste la gentillesse de rester avec nous le temps de passer une publicité, et on se retrouve juste après. De retour avec vous, amis auditeurs, toujours autour de cette émission spéciale Téléthon 2019, la 33e édition. Ça va partir demain, ou ça va commencer demain, le vendredi et le samedi 7. Donc vous avez un seul numéro, un centre d'appel qui accueillera vos dons, le 36-37. Et on continue juste avant 16h, on continue avec le docteur Andoni Urtizberia, clinicien expert des maladies neuromusculaires, pour finir justement autour de la recherche. Merci docteur d'avoir accepté de patienter le temps d'une pause de publicité. Allô docteur ?
Oui.
Alors, juste avant de finir, comme vous le savez si bien, la thérapie génique est en plein boom. Apparemment, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a reçu 310 demandes concernant des médicaments de thérapie génique et prévoit 40 médicaments sur le marché d'ici 2020. Et actuellement, les médicaments sont beaucoup développés apparemment par les entreprises américaines. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à notre industrie pharmaceutique ici en France et en Europe?
Je pense qu'on pourrait faire effectivement mieux, hein, comme je disais tout à l'heure, pour valoriser des recherches qui sont conduites pour la plupart du temps en Europe, hein, et en particulier en France, pour ce qui concerne les maladies neuromusculaires. Bon, après, c'est les questions de stratégie industrielle, hein, qui concernent les grandes boîtes de pharma, mais je crois qu'il faut rester quand même optimiste dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura peut-être une prise de conscience en France de l'intérêt de relocaliser en quelque sorte la production industrielle de ce type de médicaments. Alors, il y a déjà des exemples. Hein. Il y a Hyposkesi qui est aussi un produit dérivé du Téléthon et qui se lance justement dans cette aventure qui est de rendre la thérapie génique d'une part la plus safe possible, la plus sûre possible, mais également la plus abordable possible, parce que ça ne sert à rien de faire des médicaments efficaces qui coûtent très cher, qui ne sont pas accessibles aux patients. Hein. Mm-hmm. Et ça concerne, là pour le coup, l'humanité entière. Hein.
Vous restez optimiste par rapport
oui,
à...
Oui, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, et qui vont faire que de toutes les façons, le système n'est pas viable en l'état. C'est-à-dire que, comme vous l'avez tout à fait souligné, c'est une avalanche hein, à laquelle on va faire face de médicaments, donc de thérapie génique. Alors, on connaît un peu le process industriel, c'est une chose, mais ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le remboursement, le financement de tout ça.
Et la prise en charge, oui, des malades, oui.
Qui va payer, etc. Là on est devant un mur. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on invente des nouveaux modèles pour à la fois assurer l'essor de cette partie industrielle, mais aussi de la partie, remboursement et accès au traitement, qui sont actuellement un frein, et un frein d'autant plus important de l'autre côté de la Méditerranée, pour les questions que l'on peut imaginer. On assiste à une frustration grandissante, qui est quand même paradoxale, alors qu'on devrait être tous contents d'avoir des médicaments efficaces, et bien de voir qu'ils ne sont pas encore, bien pas encore, parce que là aussi je suis optimiste, encore disponible pour tout le monde.
Mais il faut bien garder cet optimisme. En tout cas, les Français vous le renouvellent chaque année hein, autour du Téléthon. Ils sont toujours là, généreux, qui appuient cette action. Merci en tout cas infiniment, docteur Andoni Urtizberia. Donc, je rappelle que vous êtes clinicien expert des maladies neuromusculaires. J'espère vous avoir parmi nous prochainement dans d'autres émissions.
Avec plaisir.
Merci.
Merci, Andoni. À bientôt.
À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, donc vous avez quelque chose à vous rajouter par rapport à ce qu'il a dit,
docteur. Ce que je voulais préciser, c'est que en effet, Généthon est notre institut de recherche, mais nous avons aussi créé une filiale qui s'appelle Hyposchésie, elle a été citée par Andoni, qui est une pharma, on pourrait dire une pharma associative quelque part, qui est une pharma qui a pour vocation à produire au stade industriel ces médicaments de thérapie génique issus de la recherche de Généthon ou d'autres laboratoires partenaires. Donc nous sommes aussi en tant qu'association de malades, nous sommes aussi impliqués dans le développement industriel des médicaments pour ces maladies rares, et donc pour que tout le chemin soit bouclé vers la mise à disposition de ces traitements, et comme on vient de l'évoquer, à des niveaux de prix qui soient abordables par les systèmes de santé.
Eh bien écoutez, on y croit. En tout cas, j'espère que cette année la récolte sera fructueuse pour les malades et destinée aussi à la recherche. On va parler de votre expérience juste après le flash, et puis on aura aussi le témoignage de Hanan qui est à l'écoute, qui elle est avec le Téléthon depuis un petit moment. Juste le temps d'une pause d'information, n'est-ce pas Raymond ? Allez, à tout de suite.
Bonjour, c'est Sophie Davant. Les 6 et 7 décembre, c'est le grand week-end du Téléthon. Vous allez découvrir de nouvelles victoires. Les chercheurs vous parleront d'une véritable révolution médicale qui change la vie des malades. C'est à vous que nous devons ces victoires. Ensemble, multiplions-les. Merci pour votre soutien au 36-37 ou sur téléthon.fr.
Voilà, de retour avec vous, amis auditeurs. Le plaisir de vous accompagner à travers cet élan de positif autour du Téléthon, un élan de solidarité, d'espoir, j'ai envie de dire, pour appuyer les actions menées par AFM Téléthon, en tout cas Radio Orient, a le plaisir d'accueillir Monsieur Christian Côté, le directeur général de l'AFM Téléthon aujourd'hui, qui, depuis le début de l'émission, nous a parlé de cette aventure humaine magnifique avec aussi des familles concernées par la maladie et aussi intéressées par la recherche médicale. Et justement, au bout du fil, on a Hanan Zarouki, une des personnes qui accompagne ou qui accompagne AFM Téléthon, elle qui a eu aussi son itinéraire avec la maladie. Hanan, bonjour. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, Ocela.
Comment va Hanan?
Bonjour, Hanan.
Bonjour. Elle voulait tellement être parmi nous aujourd'hui. Ah. Elle a fait tout pour être parmi nous. Hélas, ce mouvement de grève des transports nous a fait défaut. C'est pas grave. Elle est avec nous et elle a insisté à ce qu'elle soit présente parmi nous. Merci pour vous, Hanan. Alors, votre itinéraire, comment vous êtes venue vers le Téléthon? Racontez-nous.
Oui, alors. En fait, mon histoire avec l'AFM remonte aux années 90, plus précisément dans les années 80, parce que j'ai été diagnostiquée en 1987. Mmh. Donc j'ai appris que j'avais une cardiopathie ceinture, ainsi que mes deux frères, qui sont atteints aussi de la même maladie. Mmh. Et donc... En fait, à l'époque, il n'y avait pas les centres de référence comme aujourd'hui. On était suivi par des services de soins. C'était assez compliqué à cette époque-là. Donc, on a été en fait dirigé vers l'AFM, le service régional, plus particulièrement, de l'AFM pour nous aider dans les démarches, pour nous aider dans le quotidien. Parce que mes parents venaient d'apprendre qu'ils avaient trois enfants malades d'un coup. Mmh. Et donc, c'était assez difficile. Donc, ensuite, j'ai J'ai connu le Téléthon ensuite, j'ai eu des liens plus profonds avec le Téléthon à partir des années 90, parce que je me rendais souvent au DRAC, c'est le département de recherche en activité de communication, en fait, qui permettait à des personnes atteintes de maladies neuromusculaires de se retrouver autour d'outils informatiques, de partager en fait ses expériences, un café, de discuter en fait, de rompre l'isolement.
C'est comme une forme de groupe de parole, Hanan.
C'est plus que ça, en fait.
Si je peux dire une chose, c'est que on parle beaucoup de recherche et de développement du médicament, mais il y a aussi tout un volet d'aide et de soutien et d'accompagnement des malades et des familles qu'on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Et ce qui est en train de nous décrire Hanan s'inscrit dans ce
totalement.
Domaine-là.
Totalement. C'est ce que j'allais poser comme question. Donc, votre appui au niveau de votre association AFM Téléthon dépasse l'appui à la recherche.
Bien sûr.
L'appui carrément aux familles. Vous venez en aide aux familles qui ont besoin d'être que leurs enfants ou les malades se réinsèrent dans la société.
Bien sûr. Mm-hmm. Nous avons mis en place des équipes d'accompagnement qui sont là pour aider les malades et les familles à faire face à la maladie dans toutes ses composantes. Donc à la fois l'orientation vers les soins, mais aussi l'aide et le soutien pour, par exemple, l'adaptation du logement. Mm-hmm. Lorsqu'on doit vivre avec un fauteuil roulant un petit peu encombrant, c'est l'aide et le soutien pour accéder à des aides publiques qui permettent de financer les matériels dont les malades ont besoin, et puis aussi apporter parfois un soutien financier pour éviter que la famille soit confrontée à des restes à charge pénalisantes pour elle.
Justement, Hanan, vous avez rompu ce silence en compagnie de cette association AFM Téléthon, et vous avez décidé de faire partie de cette association, si j'ai bien compris.
Oui, donc...
Vous engagez.
En fait, j'ai décidé de m'engager en 2014 à la suite du décès de mon frère, Grand-Famet, en fait, qui est décédé. Et donc, j'ai souhaité, en fait, m'engager parce que je voulais, en fait, faire avancer la recherche, surtout, en fait, l'aide aux malades. J'ai décidé de faire partie du conseil d'administration. Le Téléthon. Et donc, je me suis engagée en 2014. Mmh. C'est pour moi, en fait, une manière de combattre aussi la maladie.
Votre isolement.
Pas vraiment l'isolement, mais c'est-à-dire que c'est plus, en fait, pour faire avancer l'association à mon niveau.
D'accord.
En tant que malade, quoi. En fait, participer à l'avancée en tant que malade, parce que ça montre qu'il y a aussi des malades dans l'association. Il y a des parents malades, mais des malades aussi. Enfin, c'est très important qu'ils soient représentés. Donc, moi, j'ai voulu représenter l'association.
Vous voulez rajouter quelque chose?
Ce que dit Hanan est très important. L'AFM Téléthon est une association de malades et de parents de malades. Est-ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est qu'elle est dirigée par les malades ou des personnes apparentées à des malades eux-mêmes. Le conseil d'administration de l'AFM Téléthon n'est composé que de malades ou de personnes concernées par la maladie à travers un proche. Et ce qui fait un petit peu, ce qui nous donne une couleur, une spécificité, toutes ces actions qui
cohérente.
Sont conduites, une cohérence énorme, puisque toutes ces actions, elles sont conduites par les malades et pour le bénéfice commun de l'ensemble des malades.
Et de la société.
Bien sûr.
Oui, je vous écoute, Hanan. Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais juste vous dire que vous avez raison, c'est là aussi, quand vous dites qu'il faut rompre l'isolement, parce que, en fait, MyFed, c'est plus qu'une association, c'est une famille. Pour moi, c'est ma deuxième famille, parce que c'est grâce au Téléthon aussi que j'ai pu avancer dans la vie. Et quand on se retrouve tous ensemble, en fait, on se sent moins seul face à la maladie. Mm-hmm. On se comprend, en fait, on partage bien plus ce qu'il faut, et donc on avance sur l'écoute.
Voilà. S'il y a un appel que je vous demande à faire à travers Radio Orient, quel serait votre appel, cher Hanan?
Moi, je dirais que ça prend en fait le 30-37 là, pendant les 30 heures, parce que il y a beaucoup de gens qui attendent. Parce que 36-37, ça permet de faire avancer la recherche, mais aussi quand nous, camarades, on entend que les personnes font composent ce numéro-là, c'est aussi, on se dit, voilà, on pense à nous, ça va avancer, en fait. Voilà, donc moi, je dis simplement, faites le 36-37, surtout aussi à toutes les personnes qui sont malades, qui écoutent ou qui sont chez celles, là, actuellement, qui peuvent pas se déplacer aussi, parce que je sais les amis qui sont chez eux, qui sont malades, qui peuvent pas sortir de chez eux, ben, en fait, je leur dis, gardez espoir, voilà, il y a des gens qui pensent à nous, on n'est pas seuls, voilà, c'est ça le message que je dirais.
En tout cas, je sais que oui. Monsieur Côté, Anan, elle aurait adoré être à Radio Orion parce qu'elle aime beaucoup cette radio et elle l'écoute en compagnie de la famille, n'est-ce pas?
Oui, j'écoute depuis mon enfance parce que mes parents adorent la Radio Orion et on l'écoute quotidiennement, surtout ma mère qui aime beaucoup la musique du Moyen-Orient.
En tout cas, vous serez toujours la bienvenue. Ce n'est qu'une partie remise, promis.
Oui, je vous remercie.
Et puis, on aura toute la joie de vous accueillir au sein de la radio avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Et bien le bonjour à votre mère qui aurait aussi souhaité vous accompagner ce jour, mais ce n'est qu'une partie remise.
Oui, elle vous salue également et merci de votre accueil. En tout cas, j'ai fait une belle rencontre. Vous êtes quelqu'un de très sensible et sympa, donc merci.
Merci à vous, c'est vous qui dégagez cette sympathie. Merci et à bientôt, Hanan.
Et puis je dirais aussi bravo à Crespin qui a bien parlé aujourd'hui.
Ouais, je t'embrasse, Alain.
À bientôt, voilà, Hanan.
Merci, à bientôt.
Prenez soin de vous, à bientôt.
Merci, à bientôt.
On continue avec cette émission juste avec après une page de publicité, oui, donc juste après la page, Raymond. Allez. C'est parti. De retour avec vous, amis auditeurs, le plaisir de vous accompagner à travers cette émission spéciale Téléthon 2019 dans sa 33e édition. Cette année, il vous revient demain, donc le 6 et le 7. J'espère que cette année sera fructueuse pour le Téléthon, pour aider et appuyer, justement, comme on vient de l'entendre, ces familles qui sont qui ont besoin de vos dons et justement la recherche, les scientifiques qui ont besoin aussi de vos dons pour avancer ou faire avancer leur recherche pour venir en aide à ces malades. Et justement, j'en parlais à l'instant avec Monsieur Côté, Christian, directeur général de l'AFM Téléthon. On parlait de cette vie parallèle, Monsieur Côté, entre votre poste ou responsable, votre responsabilité au sein de l'association AFM Téléthon et votre vie itinéraire de papa qui a accompagné sa fille pendant pendant longtemps. J'ai envie de dire, je vous laisse nous raconter.
Il n'y a pas de hasard. Ma fille Marie-Lise a été diagnostiquée, elle avait 2 ans, elle a été diagnostiquée en 1985 d'une maladie rare qui s'appelle l'amyotrophie spinale infantile. Bon, c'est une maladie lourde, ça fait partie de ces maladies neuromusculaires. Les parents, donc je suis papa et mon épouse, nous sommes chacun porteurs du gène responsable de la maladie, mais nous sommes porteurs sains, la maladie ne s'exprime pas chez nous parce que nous avons un seul gène qui est muté et les gènes vont par deux.
D'accord.
Mais dans le hasard de la transmission génétique lors de la fécondation, la fatalité a voulu que nous transmettions chacun le gène porteur de la mutation.
Et c'est une histoire de hasard ou...
C'est une histoire de pur... En fait, c'est un mécanisme qui correspond à un très très grand nombre de maladies. Quand on parle de maladies génétiques, il ne faut pas uniquement avoir en vue des maladies qui se transmettent de génération en génération. Beaucoup d'entre nous, enfin, tout le monde, vous, moi et tous les personnes, êtres humains, portent des anomalies dans leur gène qui, si le hasard fait que la personne avec laquelle ils ont un bébé, les mêmes anomalies se retrouvent, il y a un risque de que le bébé lui-même soit atteint. Donc la maladie génétique, elle peut apparaître n'importe quand, même s'il n'y a jamais eu de cas dans les générations précédentes. C'est ce qu'on appelle le... pour l'expliquer rapidement, tous nos gènes vont par deux. Quand un seul des deux gènes est anormal, la maladie, la plupart du temps, n'apparaît pas. Mais il faut que les deux gènes transmis chacun par l'un des deux parents portent la mutation pour que la maladie s'exprime, ce qui est le cas de l'amyotrophie spinale. Et quand ma fille a été diagnostiquée, donc il y a maintenant 34 ans, tout ce qu'on a pu nous dire à cette époque-là, c'est que tout ce qu'on savait, c'est que c'était une maladie génétique. On nous a expliqué comment elle se transmettait, le papa, la maman, et puis la recombinaison des gènes qui fait que l'enfant, lui, va porter les deux gènes mutés. Et puis on nous a dit, faudra faire de la kiné parce que votre enfant va se dégrader au niveau de sa capacité musculaire et donc il y aura des déformations orthopédiques. Donc et puis voilà. Et puis on n'en savait pas plus. Le gène n'était pas connu, la mutation n'était pas connue. On connaissait le mécanisme général.
On imagine votre désarroi à cette époque-là.
Donc, comment vous avez fait? C'est un peu le coup de massue. On se dit surtout que à l'époque le manque de connaissances fait que un pédiatre nous avait annoncé une espérance de vie de quelques années en disant que la dégradation du corps allait faire que très vite l'ensemble des muscles allait être touché, y compris les muscles de la respiration.
Détectés à la naissance ou après
Non, elle avait 2 ans lorsque la maladie a été détectée. Et donc ça touche tous les muscles et à la fin c'est les muscles de la respiration qui activent le système pulmonaire. Et donc ça se termine très mal en détresse respiratoire et malheureusement c'est une maladie qui touche environ 120 bébés chaque année en France. 60% d'entre eux, donc environ 70, correspond à une forme très grave pour lesquelles jusqu'à aujourd'hui, et on va voir que l'horizon s'éclaircit, jusqu'à aujourd'hui, ces 70 bébés de la forme la plus grave ne vivent pas au-delà de 24 mois. Bon, ma fille, dans son malheur, a eu, je dirais, la chance d'être affectée par une forme un peu plus modérée de cette maladie, qui fait qu'aujourd'hui, à 36 ans, elle vit sa vie. Certes, elle est dépendante, elle vit en fauteuil roulant électrique, elle a un certain nombre d'incapacités, mais elle vit sa vie en toute autonomie, malgré les limitations de la maladie.
Et votre chemin vers le Téléthon, comment ça a été?
Donc, quand on a eu ce diagnostic, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui existait comme recherche sur cette maladie, et un jour, un médecin que je rencontrais me dit « Mais il existe une association qui est relativement importante, vous devriez vous rapprocher de cette association parce qu'elle pourrait peut-être vous aider. » Et cette association, c'était l'AFM, qui est devenue aujourd'hui l'AFM Téléthon. Donc environ un an après...
Avant qu'elle devienne Téléthon.
Alors, avant le Téléthon. Avant le Téléthon. J'ai eu des réticences parce que ma vision de l'époque était de me dire « Mais... c'est déjà lourd à vivre la vie avec un enfant dépendant, malade, d'autant plus que l'horizon nous a été décrit comme très sombre. Je vais pas aller rencontrer d'autres familles à l'intérieur d'une association. Je me rappelle ce schéma de pensée complètement erroné qui était de dire pour pleurer ensemble sur notre sort alors que au contraire il faudrait se
être ensemble contre
donc,
la maladie.
J'ai mis un an pour rejoindre l'AFM et comprendre que c'était tout autre chose, que c'était vraiment le combat solidaire, être actif contre la maladie et dans la mutualisation des efforts pour arriver aux résultats qui sont ceux que nous avons aujourd'hui. Alors, en 87, il y a eu le premier Téléthon. En 90, on l'a évoqué tout à l'heure, l'AFM a lancé son premier laboratoire qui est le Généthon. Et vous allez voir que tout ça, c'est l'histoire de la maladie qui se superpose à l'histoire du Téléthon.
Qui est une suite logique.
Dans les années 90, disons à partir de 92, Généthon a travaillé à la connaissance du génome humain et Généthon a publié les premières cartes complète du génome humain. C'était une première scientifique qui a eu un grand retentissement. Et grâce à ces cartes du génome qui donnaient des points de repère sur les gènes, les chercheurs de Généthon, mais partout dans le monde, ont pu travailler à l'identification des gènes dont les mutations sont responsables des maladies. Oui. Dans ces années-là, on connaissait moins de 10 gènes responsables d'une maladie rare, d'un petit nombre de maladies rares. Oui. Aujourd'hui, on en connaît près de 4000. Donc, c'est dire si le chemin... Et donc, grâce à ces cartes du génome, et grâce aussi à des financements apportés par le Téléthon, grâce aussi au fait que la FM Téléthon, nous avons rassemblé les familles concernées par la maladie pour obtenir les échantillons biologiques permettant de fournir aux chercheurs ce dont ils avaient besoin pour essayer de trouver la cause de cette maladie, eh bien en 1995, une équipe de recherche de l'INSERM, dont le leader est Judith Melki, une généticienne, que nous avions financé un programme qui a permis d'identifier le gène responsable de cette maladie, de comprendre donc la cause de la maladie, de voir que le gène, en fait, il existait un deuxième gène, une duplication imparfaite du gène, et que ceci a ouvert la voie à différentes thérapeutiques. Et aujourd'hui, grâce à cette avancée des connaissances, les thérapeutiques sont là. Le laboratoire Généthon, après avoir été un laboratoire de génomique fondamentale, a travaillé à la mise au point d'une thérapie génique sur cette maladie. Les publications ont été faites dans les années 2007-2008, et grâce à ces avancées scientifiques, donc vous avez compris qu'ils partent déjà du rassemblement des familles, l'identification du gène, les premières applications de thérapie génique. C'est une chercheuse de Généthon qui, par la thérapie génique, a réussi à guérir des souris malades atteintes de cette maladie. Ça a été la base de travaux qui ont pu ensuite être appliqués à l'homme. Et aujourd'hui, il existe une thérapie génique qui est accessible. Alors, elle a été autorisée d'abord aux États-Unis. C'est une biotech américaine qui a poursuivi les travaux de Généthon, qui a fait les essais cliniques et qui a obtenu l'autorisation de mise à disposition de ce traitement. Il s'appelle le Zolgenspa. C'est un nom un petit peu compliqué. Il est autorisé aux États-Unis. Il n'est pas encore autorisé en Europe. L'Agence européenne du médicament est en train d'examiner ce dossier. Mais la France a l'avantage d'avoir un système français très bien organisé, qui permet d'avoir accès à des thérapeutiques, même si elles ne sont pas encore autorisées. D'accord. On appelle ça des autorisations temporaires d'utilisation. Et à l'heure où nous parlons, il y a déjà 5 bébés français atteints de la forme grave de cette maladie qui ont pu être traités par cette thérapie génique. Et c'est une véritable thérapeutique de rupture qui va vraiment changer leur vie. Et on peut espérer que le destin sombre de ces bébés va être changé à l'avenir.
En tout cas, plein d'espoir pour les malades. J'ai envie de dire, il faut toujours garder l'espoir grâce aux dons.
Alors, justement, pour en terminer, parce que ceci est un cheminement un petit peu long, mais ma fille, donc, qui a vécu et qui a subi la maladie pendant toutes ces années, va pouvoir bénéficier au début de l'année prochaine d'un autre traitement. Alors, c'est pas le traitement de thérapie génique dont je parle, c'est un autre traitement qui, vous voyez, maladie incurable il y a encore quelques années, et on va disposer aujourd'hui de 2 traitements qui vont être utilisables sur cette maladie. Alors, quand on va traiter des adultes, on va pas les guérir, mais on va probablement, c'est ce qu'on espère, arrêter l'évolution de la maladie et quand même les améliorer quelque peu.
C'est déjà ça de gagner.
Donc, 33 ans de Téléthon, et aujourd'hui, on accède à ces thérapeutiques. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'objet de ce Téléthon. Ces premières victoires qui permettent de traiter les premières maladies, il faut les multiplier. Le Téléthon de 2019, c'est multipliant les victoires, parce que ces principes thérapeutiques qui ont pu être mis au point cliniquement sur certaines maladies, on peut aussi les appliquer à d'autres.
En tout cas, le message est certainement passé. On va juste faire une petite pause avec un témoignage et on finira avec le programme de cette édition. Et puis, nos amis auditeurs savent qu'ils peuvent contacter le 3637. C'est une plateforme dédiée au Téléthon 2019. N'hésitez pas à faire don pour la vie de ces gens, ces enfants enfants qui attendent ou de ces malades qui attendent depuis des années. Ça se trouve que votre générosité aidera les scientifiques à trouver des remèdes pour les soulager ou de les guérir. Pourquoi pas, tout est possible.
Là, chez Darmi, c'est un groupe de joueurs qui sont devenus des amis et on se mobilise tous ensemble pour venir en aide au Téléthon grâce à notre marathon caritatif qui se nomme le Shade Event. Je m'appelle Barney, je suis le cofondateur de la Shade Army. La Shade Army, elle existe depuis bientôt 4 ans. On s'est connus sur la plateforme Twitch et puis en fait on s'est liés d'amitié et maintenant on est devenu un groupe d'amis en fait. Pour le Téléthon, en fait, on organise une semaine de live non-stop. On appelle ça un marathon caritatif. C'est-à-dire on commence en fait en début de semaine pour finir en même temps que le Téléthon. Et en fait, on stream plus de 156 heures non-stop sur la plateforme Twitch avec plusieurs jeux, plusieurs concepts et plusieurs invités. À la base, en fait, on a certaines personnes dans notre groupe qui leurs enfants en fait ils sont touchés par certaines maladies génétiques et justement on s'est dit pourquoi pas en fait faire une action pour en venir en aide en fait à ce genre de personnes. On est capable de passer notre temps sur l'ordinateur et pas pourquoi pas passer le temps pour un but précis en fait. Une des idées de base en fait de la Shade Army, c'est d'entre guillemets d'effacer l'idée du gamer basique qui est tout le temps au pied dans son coin H24 sur son ordinateur. Niveau de l'organisation, il y a beaucoup de travail derrière, c'est-à-dire faut qu'on contacte des invités, des streamers, des marques pour justement essayer d'avoir un peu plus de visibilité là-dessus. Ça apporte beaucoup d'expérience. Surtout quand on aime en fait tout ce qui est gestion et organisation. Il y a de l'événementiel, il y a de l'organisation, il y a aussi pas mal de métiers qui se créent derrière, de l'audiovisuel, le montage, etc. Je vous invite à nous rejoindre du 2 au 7 décembre sur la chaîne Twitch directement chez Darmi pour nous aider et participer à notre événement. J'ai un message pour tous les gamers, c'est tout le monde peut participer à son niveau et à son échelle. Grâce aux outils donnés par le Téléthon, tout le monde peut récolter et tous ensemble on peut faire quelque chose pour cette cause.
Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd, qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux, qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde, qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. mon handicap. Ce sont tes mots, c'est ce que tu penses qui fait mal, 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 mon handicap. C'est ton cerveau, mon handicap. Ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, qui me fait mal.
Voilà, à l'instant, c'était Grégoire, mon handicap. On continue avec vous pour, on finit votre, cette émission, en tout cas, autour de l'AFM Téléthon, où cette édition, 33e édition, ça fait 33 ans, un bon parcours de cette belle association pour aider ou venir en aide aux familles des malades, à la recherche aussi, appuyer la recherche.
C'est même un parcours de la vie, puisqu'aujourd'hui, on sauve des vies grâce aux travaux qui ont pu être conduits, aux travaux de recherche, aux nouveaux médicaments, grâce à la générosité des Français.
Absolument, et c'est à vous, amis auditeurs, maintenant de jouer. Justement, on va parler du programme pour finir cette émission, Monsieur Côté. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'AFM Téléthon. Quel est le programme qui est dédié à cet événement, et comment feront nos auditeurs pour vous joindre ou faire leurs dons?
Alors, le Téléthon, c'est d'abord une émission de télévision, c'est France Télévisions, donc c'est à partir de 18h45 demain vendredi, pendant toute la nuit et jusqu'à très tard dans la nuit, pendant toute la journée de samedi et jusqu'à très tard dans la nuit de samedi à dimanche, avec des alternances entre France 3, entre France 2 et France 3, avec plein d'émissions, des témoignages de malades, des chercheurs qui vont venir expliquer les avancées de la science, et puis les animateurs, des chanteurs, des artistes,
un peu comme
parrain,
on a fait aujourd'hui,
le parrain Jean-Paul Rouve, qui vont s'impliquer, qui vont Absolument. Expliquer certains d'entre eux, notamment le parrain, sont venus visiter les laboratoires du Téléthon, donc ils vont pouvoir porter témoignage de ce qu'ils ont vu. Il y aura des familles, il y aura des enfants qui ont pu bénéficier de ces nouveaux traitements que nous avons évoqués. Donc voilà, un ensemble très très complet. Les animateurs habituels, Sophie Davant, Nagui, qui vont animer toute l'émission pour porter autour des familles, autour des artistes, autour des techniciens de France Télévisions et de tous les partenaires, la cause des maladies rares et surtout c'est cette magnifique aventure de plus de 30 ans de combat contre les maladies.
Alors, mais
le Téléthon, c'est aussi partout en France, des animations locales
Absolument.
Sur le terrain, et puis le canal du don, c'est le téléphone 36-37, où les bénévoles du Lions Club seront là pour recueillir les promesses de dons qui seront faites. C'est aussi téléthon.fr et la possibilité de donner sur le 36-37 ou téléthon.fr, c'est dès demain matin, donc même avant le début de l'émission, dès demain matin, et au-delà de l'émission, ça se continuera après l'émission, pendant la semaine qui suit.
On connaîtra la recette totale de ce Téléthon, cette édition.
Alors, on connaîtra, on aura le compteur de la fin d'émission vers 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Mais ce compteur, il marque une étape, puisqu'il y a d'autres possibilités de continuer à donner dans les jours qui vont suivre l'émission. Donc ça ne sera pas encore la collecte finale. La collecte finale, elle ne sera connue qu'au mois de mars prochain, lorsqu'on aura on clôt les comptes du Téléthon le 28 février.
D'accord.
Voilà, donc
et puis la plateforme 36-37, est-ce qu'elle est ouverte toute l'année ou
non.
Juste pour
36-37, il ouvre demain matin. Donc le jour du Téléthon,
d'accord.
Et le 36-35 va rester actif jusqu'à vendredi suivant le Téléthon.
D'accord.
Par contre, téléthon.fr, lui, sur Internet, reste ouvert toute l'année.
Sinon, il y a une possibilité toute l'année pour les donneurs de faire dons de toute l'année.
Sur téléthon.fr, et puis surtout, au-delà de donner de l'argent, ce qui est bien sûr très important, il y a aussi, nous avons besoin de volontaires, nous avons besoin d'engagement, nous avons besoin que des associations, des clubs de toute nature viennent rejoindre cette grande cause, parce que c'est maintenant quelque chose d'universel. Ça concerne des milliers, des millions de malades atteints de différentes maladies. Et on a maintenant la preuve que les recherches qui sont conduites sur les maladies rares ont aussi des résultats qui permettent d'avancer sur la recherche sur d'autres maladies fréquentes. Donc c'est un combat solidaire et universel, malgré marqué par des valeurs d'engagement, de dépassement de soi. Donc 3637 téléthon.fr, ça va être à partir de demain matin et pour le week-end qui suit, c'est la ligne de la vie, donc par rapport au progrès de la recherche pour guérir ces maladies.
Voilà, donc c'est dit à mes auditeurs. Merci Monsieur Christian Côté. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'AFM Téléthon. Merci d'être passé à Radio Orient. En tout cas, notre rôle est toute l'année auprès des familles des malades, etc. On essaie de sensibiliser le public justement autour de ces combats humains, justes et solidaires, et c'est notre rôle. Merci, et puis bon Téléthon.
Merci à Radio Orient, merci à ses auditeurs, et puis ensemble on va vivre une fois de plus l'aventure du Téléthon, et c'est aussi une fête, c'est aussi un événement joyeux, le Téléthon, malgré la maladie. C'est une fête qu'attendent avec beaucoup d'impatience les malades chaque année. Donc cet événement festif, il faut aussi le célébrer comme cela également. C'est un rendez-vous qui concerne tout le monde.
Merci Monsieur Côté. Amis auditeurs, voilà, donc ainsi s'achève cette émission spéciale Téléthon 2019. Rendez-vous donc à partir de demain matin avec le 36-37 et puis téléthon.fr.
Bonjour, c'est Sophie Davant. Les 6 et 7 décembre, c'est le grand week-end du Téléthon. Vous allez découvrir de nouvelles victoires. Les chercheurs vous parleront d'une véritable révolution médicale qui change la vie des malades. C'est à vous que nous devons ces victoires. Ensemble, multiplions-les. Merci pour votre soutien au 36-37 ou sur téléthon.fr.